9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec un sujet de société ce matin qui nous questionne tous. Vous vous sentez homme, vous vous sentez femme, mais pour d'autres Français, la réflexion est beaucoup plus complexe. Vous avez des individus nés filles qui se sont toujours sentis garçons, qui sont en transition, qui les ont accomplis, ces transitions même, et vice-versa. Certains subissent des opérations, d'autres préfèrent maquiller leur corps. Et puis nous entendrons aussi des personnes qui se vivent comme personnes et pas comme homme ni femme dans un certain refus du genre. Est-ce que nous vivons une révolution des identités et sommes-nous prêts à tout accepter? L'agression de dimanche dernier a provoqué beaucoup d'émoi, un émoi salutaire selon nos invités. On va en parler ce matin avec vos témoignages très attendus au Standard d'Europe, hein, Julie.
Oui, le 39-21, 50 centimes la minute. Et les réseaux sociaux aussi, vous y accédez avec le hashtag Europe 1.
N'hésitez pas, on relaie tout ça. Et puis à 10h, un livre va vous réjouir si vous approchez de la cinquantaine, si vous êtes entré dans la quarantaine, entre 45 et 60 ans. Il y a ce qu'on appelle les quinquados, les quinquagénaires adolescents. Livre de Serge Guérin qui nous explique comment nos âges ne nous définissent plus vraiment aujourd'hui. Toujours plus actifs, en meilleure santé, les plus de 50 ans notamment donnent une belle leçon de jeunesse à leurs cadets. Voilà le sommaire jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités pour revenir sur l'agression de Julia à Paris. Julia qui a porté plainte hier avec l'association SOS Homophobie. Elle est cette femme transgenre, donc de sexe masculin au départ, agressée, insultée et frappée. C'était dimanche à Paris à la sortie du métro Place de la République. Insultée parce qu'elle était habillée différemment, parce qu'elle était transgenre aux yeux des gens, avec beaucoup d'ignorance pour ceux que ça représente. Romain Burel, vous êtes directeur de la rédaction du magazine Têtu. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nous sommes également avec Sohan Pag, qui est chanteur, comédien. Bonjour Sohan.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer aussi votre rapport aux choses, vous qui avez été assignée fille à la naissance, comme l'on dit, qui avez fait votre outing à 18 ans, c'est-à-dire que vous vous êtes toujours senti, vécu comme un garçon que vous êtes aujourd'hui.
Oui,
en tout cas, dans votre tête et dans votre manière de vivre.
J'ai pas toujours mis le mot trans dessus, mais en tout cas, je me suis toujours senti garçon, homme.
Oui. Et ben vous allez nous le dire jusqu'à 10h avec Jonas qui est en ligne avec nous, comédien, la même manière que nous, que vous, Sohan, assignée fille à la naissance. Bonjour Jonas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Je voudrais que vous réagissiez les uns les autres d'abord à cette agression dimanche. Il y a eu une émotion très importante, notamment sur les réseaux sociaux, Romain Burel, qui traduit une forme de rejet de toutes ces violences, une forme de meilleure tolérance aujourd'hui peut-être sur ces sujets de l'identité.
Ouais, pour revenir à ce que vous disiez en introduction, c'est pas l'agression que je trouve salutaire. Moi, c'est la prise de conscience potentiellement qu'elle en traite. Moi, l'agression en question, elle me rend malade. De me dire qu'une femme sortant du métro puisse être traitée de la sorte. Je me demande d'ailleurs si
c'était
elle
bien entendu ce que je voulais dire.
Bien sûr,
hein, j'ai dû
bien sûr, évidemment.
Mais mal m'exprimer.
Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai du mal à savoir, en regardant simplement cette vidéo, si c'est une agression sexiste, mm-hmm. parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, ou et une agression transphobe, en gros. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que être une femme dans la ville, c'est déjà pas facile. Être une femme trans dans la ville, c'est encore plus difficile. Mmh. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Je trouve que c'est très important qu'on puisse en parler d'une manière très large. Je trouve la couverture de Libération de ce matin exemplaire. Mmh. Je trouve que ça fait du bien. Et cette conversation-là, on doit l'avoir ensemble, tous ensemble aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin.
Julie.
Alors moi, j'ai vu évidemment, comme tout le monde, la vidéo de cet épisode. Et je trouve qu'on ne sait pas que c'est un trans.
Une personne trans.
Mais ça se voit pas. C'est une femme qui sort du métro, pour moi.
Qui a une jupe courte, mais
voilà,
que certains.
Ça, elle est sexy, elle a une jupe courte.
On va le paguer en disant mais toi t'es un homme, toi t'es une fille. Vous avez vu cette vidéo aussi qui est d'une violence inouïe.
Hein. On n'a pas forcément ce qui se dit, mais oui, c'est très violent.
Donc on a l'impression qu'ils agressent une femme et non
d'abord,
pas une personne trans.
Oui.
En l'occurrence, ils agressent une femme. C'est vraiment. Je sais que parfois c'est un petit peu difficile, c'est une conversation assez récente encore qu'on a dans les médias aujourd'hui, etc. Et qu'elle est difficile, et elle est salutaire. Mais ouais, moi je crois que c'est vraiment une agression sexiste et transphobe,
oui.
Vraiment.
Julia qui s'est sentie d'abord agressée comme femme, en effet, puisque ces hommes se sont jetés dessus en lui touchant la poitrine.
Oui.
Elle est victime d'ailleurs de différentes formes de harcèlement aussi, comme on peut l'être comme femme. Je suis trans Et alors, pour reprendre votre citation de la couverture de Libération, Jonas, vous avez suivi aussi ces images et puis toute l'émotion qui a été liée à cette agression. Il y a une prise de conscience, en effet, qui fait du bien pour toutes ces personnes comme vous qui sont dans un dépassement de l'identité, dans un choix différent d'identité.
Parce que, en effet, j'ai constaté, c'est que, bon, voilà, une énième agression, c'est triste. Mais cette fois-ci, les gens s'insurgent, en fait. Et je pense que c'est le début des prises de conscience, comme on l'évoque depuis tout à l'heure, que, justement, les choses changent. C'est peut-être une grande expression, mais je pense que les choses sont en passe de changer, plutôt.
On parle de violence sexuelle, de violence homophobe, de violence transphobe aujourd'hui. Elle s'exprimait en ces termes chez nos confrères de LCI, Julia. Beaucoup de gens me voient au départ comme un homme travesti. Je suis au départ de ma transition et les gens peuvent me voir comme un homme maquillé, habillé en femme et ne comprennent pas forcément. Elle affichait presque une forme de, je vais pas dire de tolérance, mais elle comprenait en face l'ignorance et donc expliquait ce geste par une incompréhension de son identité.
Bah, moi, je la trouve admirable. Je l'ai beaucoup écoutée hier et je trouve que à propos sur les, notamment d'acceptation, de refus de stigmatiser une autre population aussi, que je trouve qu'elle est, elle est incroyablement elle est juste géniale, cette fille, quoi. Vraiment, après ce qu'elle a vécu, en plus, après le choc, de pouvoir faire le tour des plateaux télé aussi pour pouvoir porter une parole en se disant que ce qui venait de lui arriver devait servir à quelque chose et qu'on puisse aujourd'hui avoir une conversation sereine sur ces questions-là, je trouve que vraiment c'est admirable. Peut-être que Sohan pourrait nous expliquer ce qu'est le passing, parce qu'on parle de ça en fait.
Le passing,
ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire le passing, Sohan?
Le passing pour une personne trans, c'est le fait de, par exemple en tant qu'homme trans, d'être perçu comme un homme cisgenre dans la rue.
Cisgenre?
Cisgenre qui est l'inverse de trans, du coup.
D'accord.
Et voilà.
Mais par exemple, vous, Sohan, qui allez souvent sur les applications, les sites de rencontres, etc., ça fait aussi 2-3 ans que vous essayez d'introduire un peu de sensibilisation et de pédagogie dans les échanges que vous avez avec certains qui sont d'une violence inouïe, parce que trans, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et eux, en l'occurrence, voient des choses qui ne sont pas la réalité pour vous.
Oui, il y a un manque d'information qui est clair et qui, du coup, amène à une violence, qu'elle soit verbale ou physique, comme on a pu voir dans la vidéo. Mais... c'est vrai que j'ai l'impression que ça évolue potentiellement en faisant de la pédagogie, en parlant, en donnant la parole à des concernés aussi.
Oui.
Mais après, là, les réactions qu'il y a eu après cette agression, je ne sais pas si c'est des trucs temporaires, si les gens juste s'insurgent d'un coup et au final vont très vite oublier, très vite passer à autre chose.
Oui.
Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de voir qu'enfin les gens se réveillent et les gens se rendent compte qu'il y a des agressions comme ça. C'est quand même 85% des personnes trans qui subissent des agressions au cours de leur vie.
Oui, pour
donc
pouvoir...
c'est pas un cas isolé. C'est
absolument. Et il faut dire les choses. Vous avez d'ailleurs, je la recommande sur le site de Tétu, fait une vidéo très instructive sur le sujet. Sohan Pag, où vous expliquez par exemple quand vous dites que vous êtes trans sur un site de rencontre, vous avez évidemment des insultes et puis des gens qui vous disent donc t'es une fille. Alors que vous êtes jamais senti fille précisément.
Non,
donc c'est très humiliant, c'est très insultant pour vous aujourd'hui.
C'est insultant. Enfin, c'est une remise en cause de mon identité que je peux difficilement accepter. Surtout maintenant qu'on en parle, que les gens sont censés s'informer par eux-mêmes aussi.
D'autres disent que vous êtes dans un délire qui n'est pas le leur. Jonas, ça doit vous faire réagir aussi, parce que délire, ça veut dire en gros caprice. C'est évidemment très très loin de votre évolution. Vous, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est un choix de vie qui est inscrit. On vous a assigné fille, mais vous vous sentiez au fond garçon depuis tout petit.
C'est sûr qu'on... Je pense que Swan... se rangera de mon côté qu'on n'entame pas une transition juste pour s'amuser, quoi. C'est pas amusant.
Ouais,
encore c'est... moins quand la société stigmatise du coup des personnes comme Julia, parce que comme on l'a assez bien expliqué, on parle de passing et que le passing, s'il est un peu biaisé par les stigmates de la société qu'on a aujourd'hui patriarcale, parce que qu'est-ce que femme, qu'est-ce que homme, les gens, ils peuvent s'insurger, soit comme on l'a vu, ce jeune homme qui frappe Julia, soit justement l'inverse. Et je pense que c'est vers ce chemin-là qu'on aimerait se ranger. Et je pense que c'est, comme on l'a dit, par l'éducation, par l'information.
Bien sûr, et on va y revenir tout au long de cette émission. Le passing, vous pouvez juste nous redire clairement ce que c'est, Romain Burel.
C'est d'être perçu comme son identité ressentie. Je ne dis pas de bêtises,
non, c'est ça.
C'est ça. C'est concrètement, c'est Alors, un garçon transgenre en début de transition va peut-être ressembler un peu à une fille parce qu'il a encore les traits, etc.
Voilà, etc. Ou vice-versa, ce qui se passe avec Julia, voilà, voilà, au début
exactement.
De sa transition.
Ouais. Et c'est ce qu'elle expliquait d'ailleurs sur les plateaux, donc elle est en début de transition, que peut-être encore, on peut encore l'apercevoir à travers elle, des traits peut-être masculins, etc.
Oui, c'est ça, passing, c'est le passage. Hein,
c'est pas forcément lié à la transition, parce qu'il y a des personnes trans qui cherchent pas forcément à avoir un cis-passing, enfin, notre but n'est pas avant tout de ressembler à des personnes cis, et il y a des personnes trans pour qui c'est pas forcément important, il faut aussi peut-être le préciser.
Ouais, non, mais c'est absolument. Arnaud Alessandrin, vous êtes avec nous juste un petit mot avant une petite pause. Vous êtes sociologue et vous enseignez la sociologie du genre et de la discrimination. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur le refus de ces formes de violence sexuelle globalement et ce que vous indique aujourd'hui sur le mouvement de l'opinion publique, la réaction face à l'agression de Julia.
Oui, ce qu'on observe, c'est qu'on est passé rapidement du silence vis-à-vis des actes transphobes, à la stupéfaction de ces actes transphobes médiatisés, à l'action. Alors, est-ce que pour autant on peut dire que la société est tolérante à voir ? En tout cas, ce que montre cet événement dramatique, c'est que la société a restreint son seuil de tolérance vis-à-vis de la transphobie.
Des actes qui sont aussi mieux médiatisés, plus médiatisés et peut-être davantage compris parce que on les associe à de la pédagogie derrière, comme nous essayons de le faire ce matin.
Alors, plus médiatisés, c'est certain. Mieux médiatisés, c'est peut-être une tendance, mais elle doit se confirmer. Mm-hmm. Ce qui est important quand même à souligner, c'est que cet événement n'est pas satellitaire à la vie des personnes trans dans l'espace public. Les enquêtes qu'on mène actuellement à Bordeaux sur les LGBT-phobies dans l'espace public montrent, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres, que 80% des personnes trans se vivent stressées, anxieuses dans l'espace public, là où en moyenne, les LGBT sont 40% à avoir ce sentiment. Autre chiffre important que je pourrais vous donner, on est à plus de 20% des personnes trans qui disent subir au cours des 12 derniers mois des violences physiques dans l'espace public. Et parallèlement à ça, on a quasiment 50% des témoins d'actes de violence transphobe qui, en plus de ne pas intervenir dans les premiers temps, finissent par augmenter les discriminations dans un second temps. Ils vont participer, ils vont pointer du doigt, ils vont filmer, ils vont se moquer.
Ah oui, et ça c'est très clairement lié aux actes transphobes en l'occurrence.
On a une augmentation très claire de la participation des témoins pour les personnes victimes de transphobie. Là où en moyenne, pour les femmes dans l'espace public, mais pour les gays et les lesbiennes, c'est la même chose, on ne dépasse pas les 10%.
Ouais, c'était manifeste en Place de la République à la sortie du métro quand vous regardez de nouveau la vidéo. Je vous remercie à Arnaud Alessandré de nous donner les résultats de cette étude en exclusivité. Vous pouvez rester un petit peu avec nous. Hein. Simplement, on fait une petite pause et on va réagir à ces chiffres que vous venez de vous donner. Je vais vous faire réagir justement Sohan, Jonas, Romain Burel sur le sujet. A tout de suite avec cette société qui s'interroge sur la révolution des identités, tous ensemble contre la transphobie. Oui, on le souhaiterait, mais notre société est-elle prête? Eh bien, ces chiffres nous donnent à réfléchir. A tout de suite jusqu'à 10h sur Europe 1, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Dimanche dernier, Julia, une jeune transgenre, se faisait agresser, place de la République, lors d'un rassemblement à Paris. Les images ont provoqué une levée de boucliers contre la violence et le rejet que subissent ces hommes et ces femmes, assignés garçons ou filles à la naissance. On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et elle dit, Julia, en couverture de Libération aujourd'hui, je suis trans et alors, avec la main se rapprochant du visage du lecteur, comme un stop homophobie, un stop transphobie qu'on doit comprendre justement parce que tout finalement part, comme toujours d'ailleurs pour les histoires de discrimination, de racisme et de harcèlement, de l'ignorance, de l'incompréhension, de la méconnaissance aussi de ce que vit l'autre. Par définition, nous en parlons avec le directeur de la rédaction du magazine Têtu, Romain Burel, avec Sohan Pag, qui est chanteur, comédien, avec Jonas, qui est comédien également, Jonas Benhamed, que vous avez eu le plaisir de voir dans quelques numéros de Plus belle la vie, où vous accompagnez Jonas, une jeune fille qui s'appelle Clara et qui est en transition. Voilà, elle est au lycée, elle se sent profondément garçon, elle commence par se couper les cheveux et elle commence aussi une transition douloureuse parce qu'elle n'est pas perçue de manière normale, entre guillemets, c'est souvent le terme qui revient, par ses copains de lycée. Et vous l'accompagnez, vous la coachez, vous lui donnez justement le sentiment que ce qu'elle fait lui ressemble et donc il faut aller au bout.
En fait, c'est surtout une écoute. Oui. Le personnage apporte une écoute au personnage d'Antoine. Parce que je pense que la première chose dont on a besoin en début de transition, en fait, c'est juste d'être compris et écouté.
Une transition, ça peut commencer à quel âge, pour vous, par exemple, Jonas, dans votre vrai
Moi, personnellement, j'ai entamé ma transition à 18 ans, mais elle peut s'entamer en fait, à n'importe quel âge, j'ai envie de vous dire. Ça va dépendre de l'accompagnement que vous aurez de votre entourage familial.
Oui. En l'occurrence, vous, vous êtes née, et c'est une qualification qui revient souvent, assignée fille. C'est-à-dire que vous êtes née, vous vous appeliez Mélissa, vous étiez la petite fille de la famille. Et rapidement, vous êtes aperçue que vous n'étiez pas dans l'identité qu'on vous avait attribuée, Jonas.
En bref, pour mon histoire, c'est ça, oui.
À quel moment avez-vous eu le sentiment que l'identité n'était pas la bonne, justement, et qu'il fallait en changer?
Alors moi, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas à 4 ans.
4 ans, oui.
Mais figurez-vous que cet été, j'étais chez mon oncle, qui s'est eu occupé de moi quand j'étais petit, encore plus petit que 4 ans, et apparemment, c'était déjà acté à mes 2 ans, où je refusais qu'on m'identifie au genre féminin. De par les vêtements, par exemple, que je refusais déjà de porter apparemment à 2 ans. Ouais. Moi, je ne m'en souviens pas, mais c'est les faits relatés par mon oncle cet été. J'ai été très surpris d'apprendre ça. Comme quoi, en fait, l'identité de genre, elle peut être vécue bien avant, en fait, l'âge de raison qui est 7 ans. Et je pense qu'on a tous notre rythme sur l'identification de notre identité de genre réelle.
Oui.
Moi, ça a été très tôt. Certaines personnes, c'est beaucoup plus tard, on peut le voir. Des personnes peut-être qui ont fui longtemps ce sentiment, qui ont du mal, comme disait Swan tout à l'heure, à mettre des mots dessus, tout simplement. Et je pense que ouais, on a tous notre histoire différente face au coming out, à la transition et à la prise conscience de cette dernière.
Bien sûr, et puis à votre relation avec l'entourage, qui comprend, qui rejette, justement. Swan, vous êtes intervenu à quel âge cette prise de conscience? Vous avez 20 ans aujourd'hui.
J'ai 20 ans, je me suis rendu compte que j'étais trans à 13 ans. Enfin, oui. J'ai mis le mot trans dessus.
C'est-à-dire qu'en fait, vous, à 13 ans, vous ne sentiez pas homosexuel. Par exemple, vous étiez fille, mais vous ne sentiez pas homosexuel. Vous saviez qu'il y avait quelque chose dans ce corps qui ne correspondait pas à l'image qu'on projetait sur vous, c'est ça?
Ce n'était pas forcément une question de corps. Enfin, je l'ai projeté comme ça parce qu'il s'avère que moi, j'avais de la dysphorie, c'est-à-dire un malaise par rapport à mon corps.
D'accord.
Mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, ça s'est traduit un petit peu comme ça, mais c'était surtout... Juste une sensation profonde d'être un garçon et pas une fille.
C'est-à-dire que comment vous vous sentiez mal dans votre corps? Ça se traduisait comment? Qu'est-ce que vous rejetiez de chez vous, de vous?
C'est surtout la façon dont les gens m'appelaient, la façon dont les gens me nommaient qui ne me correspondait pas. Mm-hmm. Après, comme je disais, je faisais de la dysphorie, donc j'avais du mal, par exemple, avec ma poitrine.
D'accord.
Mais,
donc vous la cachiez?
À 13 ans. Non. Mais ça, c'est mon cas particulier, c'est pas du tout le cas de tout le monde, ça reprend pas tous les parcours trans.
Oui. En revanche, à 13 ans, donc prise de conscience, vous en avez parlé à quel âge à vos parents?
À 13 ans.
À 13 ans, à ce
moment-là. J'ai écrit une lettre à ma mère et à ma sœur, et j'en ai parlé à mon père aussi. Mais je l'ai vraiment affirmé à 18 ans, mais j'avais commencé à en parler à 13 ans.
Ouais. Et à 13 ans, comment on réagit quand on est maman, votre maman en l'occurrence?
Je pense que ma mère n'avait pas forcément conscience de ces sujets-là, donc elle ne l'a pas forcément bien pris. Enfin, c'est surtout qu'elle m'a dit qu'elle aussi... en gros, elle a pris ça comme si j'étais complexée, comme une fille complexée. Et elle m'a dit que non, j'étais sa fille, qu'elle en était sûre, et qu'elle avait mis au monde une fille, donc voilà. Mais ensuite, elle a fait tout un parcours pendant plusieurs années où elle s'est renseignée et où elle a fait l'effort d'essayer de me comprendre. Et à mes 18 ans, quand j'ai demandé de m'appeler Swan, ça a été... Et c'est... Tout est redevenu normal.
Ouais, ça c'est magnifique. On va voir ces différentes étapes parce qu'il y a aussi ce regard de l'entourage. En effet, Romain Burel qui peut considérer que c'est une mode, une passade, quelque chose qui est en transition, voire une crise, une crise d'identité.
De toute façon, on a toujours du mal à mettre des mots sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc si la conversation qu'on a ce matin, elle peut aider à quelque chose dans les familles, avoir un début de discussion, etc., c'est hyper important. On parlait tout à l'heure avec Jonas Ben Ahmed, je me rappelle de ce tweet hyper émouvant d'un jeune garçon transgenre qui expliquait que sa mère, en regardant un épisode de Plus belle la vie, qui a démarré une conversation avec son fils, quoi, en disant « Est-ce que tu y as déjà pensé ?» Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Vous imaginez un peu le pouvoir que peut avoir la représentation juste d'une personne LGBT, et notamment, en l'occurrence, d'une personne transgenre dans les médias, dans une série télé, un objet populaire et culturel comme une série comme Plus belle la vie, qui permet de démarrer des conversations aussi importantes dans les familles.
Formidable. C'est là où j'ai rencontré Jonas. Nous tournions pour France 3 et je dois dire que ce feuilleton qui traduit aussi, qui réagit en miroir de la société, est fabuleux pour ça, s'il peut justement diffuser l'échange dans les familles. Sohana,
je dirais aussi que c'est super important d'avoir une représentation parce qu'en tant que jeune personne trans, moi par exemple à 13 ans, j'avais aucune image d'homme trans de plus de 20 ans par exemple.
Oui.
Et c'est très important pour des jeunes personnes trans d'avoir des gens vers qui se projeter. Quoi.
C'est ça, s'identifier. Voilà, ouais. pour des mains tendues. Le conseil et l'écoute dont vous parliez, Jonas, on en reparle dans un instant avec vos différents témoignages. Avec Catherine qui veut réagir au 39-21, avec l'appréciation du sociologue Arnaud Alessandrin, auteur de Sociologie des trans-identités aux éditions Cavalier Bleu. À tout de suite sur l'antenne d'Europe 1. On fait le tour de ce sujet fort et de société jusqu'à 10h ce matin.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
À la suite de l'agression de Julia à Paris dimanche dernier, nous parlons de la transphobie jusqu'à 10h. Wendy Bouchard.
Je voudrais vous faire réagir, Arnaud Alessandrin, vous qui étudiez ces rapports au genre et à la discrimination. Nous avons un message de Mathieu qui nous écrit de Paris et qui nous dit « Je suis très étonné que personne n'ose dire qui étaient les agresseurs de Julia. Il va falloir quand même oser le sujet de l'incompatibilité entre certains types de sexualité et la culture. » Il se trouve que c'est un rassemblement pour le départ de Bouteflika, place de la République, mais que la même Julia dit que ce n'est pas en rapport avec l'identité, j'ose dire, culturelle, ou nationale de ces hommes et qui l'ont agressé. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que justement cette transphobie irrigue malheureusement toutes les couches de la société ?
Écoutez, dans nos enquêtes, c'est assez clair. Quand on a 80% des personnes trans qui se sentent stressées au cours des 12 derniers mois, oui. 20% qui subissent des agressions physiques, c'est bien que la transphobie est partout. Mmh. Elle est partout et quand nous enquêtons dans une ville qui est une ville blanche hein, et une ville bourgeoise comme Bordeaux hein, oui. en son centre-ville, on peut estimer que si la transphobie apparaît à Bordeaux, alors elle apparaît également ailleurs. Il y a des points communs, cependant, entre la vidéo de Julia et de l'agression de Julia et quelques témoignages que nous avons pu recueillir. Premièrement, ce sont des hommes. Et assez nettement, les agressions transphobes, homophobes ou sexistes sont le fait très massivement à 99% d'hommes.
Ouais.
Donc, ça, c'est un point commun. Deuxièmement, il s'agit d'un effet de meute, d'un effet de troupe, d'un effet de rassemblement. Et on a, hein, dans nos enquêtes, une augmentation des violences avec l'augmentation du nombre de personnes qui sont auteurs et témoins de la scène, ainsi que la dimension statique de l'action. Quand les hommes sont statiques, alors l'agression n'en est que plus violente. Car dans l'espace public, lorsque le déplacement est fluide, l'agression est plutôt de l'ordre de l'agression verbale.
Ouais, très intéressant, voilà, parce que ça traduit un peu votre ressenti aussi, Romain Burel, ces chiffres, cette enquête d'Arnaud Alessandrin.
Oui, ouais, clairement, c'est ce que je disais. Je pense que c'est pas tant c'est pas du tout le problème qu'il soit que c'est un rassemblement pour contester ce qui se passe actuellement en Algérie ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question, mais assez ridicule, je trouve, finalement. Non, c'est clairement un problème d'une masculinité très, très
toxique.
Ça peut
y être lié, mais à la marge, ce que vous voulez dire.
Non, ouais. Je pense même pas, concrètement. Moi, je vous le dis, pour être très honnête, même dans un stade de foot, je me sens pas à l'aise, moi. Ouais. Concrètement, parce que les effets de meute, justement, cet effet
êtes...
groupe.
Oui.
Mais je suis homosexuel.
Oui.
Mais concrètement, c'est pas... Mais, ouais, entre les champs homophobes et potentiellement aussi une certaine violence et une certaine virilité c'est pas, qui est exacerbée, c'est pas les endroits où je me sens à l'aise.
Romain Burel, on se retrouve avec Jonas Sohan. Merci Arnaud Alessandrin, je rappelle votre ouvrage
«
Sociologie des transidentités » aux éditions Cavalier Bleu et à tout de suite sur Europe 1. Jusqu'à 10h, nous donnons la parole ce matin aux personnes trans. Des témoignages qui nous éclairent sur la manière dont on se sent plus ou moins bien dans sa peau. Qu'est-ce que cela dit de la manière aussi dont la société nous campe dans une définition ?
Oui, nous assigne dans un genre, parce que c'est ça aussi, assigner fille ou assigner garçon. Il y a même ce refus du genre, on pourra en parler dans un instant avec vous, Romain Burel, directeur de la rédaction du magazine Têtu, avec tout un mouvement non-binaire, c'est-à-dire je suis une personne, je suis un individu, je ne me sens pas garçon-fille, ou ça dépend des âges de la vie aussi. Ça, c'est une tendance qu'on retrouve beaucoup chez les plus jeunes. Je vais vous donner un chiffre et un sondage. Étude YouGov, 14% des 18-44 ans se considèrent comme binaires, c'est-à-dire ou comme garçon ou comme fille, mais pas forcément, comme personne surtout et comme individu.
Ouais, je crois qu'en fait, il y a une prise de conscience que les dictats de la féminité et de la masculinité ne sont pas forcément des choses avec lesquelles on est obligé de jouer absolument. Mmh. C'est un jeu qu'on n'est pas obligé de jouer. Et j'aime beaucoup l'idée que, notamment chez les plus jeunes, ces questions-là soient dépassées. voire parfois même totalement réglé. Je sais qu'il y a des statistiques américaines qui sont encore plus importantes, voilà, qui est quasiment, je crois, c'est une trentaine de pourcents de jeunes Américains qui ne se reconnaissent ni dans le féminin ni dans le masculin, et qui pensent qu'on peut très bien vivre une vie totalement épanouie, enrichissante, etc., au-delà du genre. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Hein.
Donc, sur un formulaire administratif, ils sont ni hommes ni femmes.
Pourquoi
ils n'arrivent pas forcément à coucher
mais
la case.
Pourquoi pas ? Parce que concrètement, d'abord cette case je pense que
tu crois qu'elle évolue cette case.
Les cases elles font du mal à tout le monde en fait, les labels ils font du mal à tout le monde, donc concrètement la semaine dernière la ministre de la recherche a annoncé sur tatu.com que elle allait écrire une lettre aux universités pour que enfin le nom des personnes le nom d'usage des personnes transgenres soit pris en
devienne
compte
un droit
à l'université directement,
oui. Utilisation important. Du prénom d'usage dans les universités,
exactement, mais on ouais. devrait simplifier tout ça en fait. Concrètement, moi je pense qu'à partir du moment où quelqu'un exprime son identité en disant voilà, je suis un garçon, je suis une fille. Mmh. On devrait tous le prendre en compte directement, et l'administration aussi, oui. et l'école, et vos collègues au travail, etc.
Oui. Et ben ça, c'est une évolution, Jonas Benhamed. Par exemple, vous allez nous raconter vos difficultés avec l'administration, l'état civil, etc. Mais je vous fais réagir sur le prénom d'usage. Faire en sorte que ce prénom d'usage soit utilisé et devienne un droit dans l'enseignement supérieur, dans l'établissement des enseignements supérieurs, à partir du moment où vous êtes devenu majeur, pour vous, voilà, on est déjà dans une étape très positive.
Bah clairement, dans le sens où moi, quand j'étais à la fac, on a refusé de m'appeler autrement
oui.
que mon prénom de naissance.
Donc ça vous renvoyait à votre identité sans cesse, oui.
C'est ça. Malgré mes camarades qui m'appelaient Jonas, malgré bah voilà mes lettres même mes lettres médicales que je dois pas forcément fournir, j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était comme ça et pas autrement. Refus totalement et c'est même une négation de mon identité.
Oui.
C'est un refus de considérer la personne que j'étais. Et quand on voit qu'aujourd'hui, bon, la fac, moi, c'était... Je suis sorti de la fac, c'était en 2012. Bon, c'était il y a déjà longtemps. Il a fallu toutes ces années, 7 ans, pour qu'on change.
Oui,
un peu de regard sur ça.
Et si vous voulez,
ça fait du bien de voir changer.
C'est ça, j'ai le sentiment qu'avec tout ce que vous avez subi, aussi la lourdeur des choses que vous avez subies dans cette transition, Jonas, parce qu'on peut le dire sans s'y attarder, vous avez subi une mammectomie, donc une ablation de la poitrine, vous avez subi aussi, comme beaucoup dans ce mouvement trans, une opération, d'autres opérations chirurgicales lourdes. Et là, vous vous heurtez à l'administration qui refuse le changement d'état civil, alors que pour vous, ça devrait être quasiment une étape beaucoup plus légère. Et on y est encore.
Bah, concrètement, en fait, pour moi, ça devrait être comme le prénom aujourd'hui, c'est-à-dire par simple déclaration à l'état civil. Tu vois l'officier de l'état civil de ta mairie.
Oui.
Et puis voilà, y a des fois, c'est une évidence. Bah voilà, vous êtes monsieur, bah voilà, vous êtes madame. Il n'y a pas de souci. Au revoir, merci. Non, aujourd'hui, on doit demander la permission à l'État parce que l'État civil ne nous appartient pas.
Et...
Moi, je trouve ça un peu aberrant parce que vous, Wendy, vous n'avez pas à faire ça pour être Madame Bouchard.
Oui.
Et c'est ça qui... En fait, c'est cette discrimination-là qui ne me convient pas. C'est que certains vont devoir passer par le tribunal de grande instance alors que d'autres, les personnes cisgenres, du coup, n'ont pas à faire ça. Et c'est un peu un décalage, une discrimination. Pourquoi une partie de la population doit subir ça alors que l'autre non ?
Ça veut dire que sur vos papiers, par exemple Jonas, vos papiers d'identité, vos papiers de sécurité sociale, etc., on vous attribue encore votre identité précédente, donc votre genre aussi précédent, en l'occurrence féminin, et donc que ça vous entrave dans beaucoup de choses du quotidien ?
Bah en fait, c'est ça. C'est qu'il y a la transphobie, comme on peut le voir avec les agressions comme Julia a subies, ou la transphobie institutionnelle quotidienne, qui n'est pas physique à proprement parler, mais du coup qui est morale.
Oui, bien sûr.
Parce que tu peux pas voyager, parce que déjà avec ma tête de personne racisée, j'ai déjà des problèmes aux douanes, on va pas se mentir. Alors si en plus il y a un décalage avec mon identité physique et mon identité sur le papier,
oui.
Ça me pose de sérieux problèmes.
Ça veut dire, en gros, vous n'osez pas voyager, prendre l'avion pour faire bref. Il y a des choses que vous interdisez parce que vous avez peur aussi, une certaine forme de
réaction. Clairement. Clairement, mes déplacements, je les effectue en train. On me propose souvent de prendre l'avion. Je refuse toujours pour pas avoir de problème au contrôle d'identité.
Comme si vous étiez dans l'illégalité ?
Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'on est dans une patrie des droits de l'homme et du citoyen. Mmh. Puisque je me suis outé, on m'a retiré les droits que j'avais de naissance. Mmh. Et puis, je ne suis ni considéré comme un homme par mon pays, par mon État, ni comme un citoyen. Parce que je crois que le propre du citoyen, c'est d'être en règle avec ses papiers.
Ouais, citoyen de seconde zone, Romain Burel.
Ah oui, clairement. Moi, ça me rend fou, en fait, ouais. Quand j'entends ça, ces genres de choses que ouais. Je trouve absolument aberrantes. Quand j'imagine en plus à quel point c'est déjà des parcours très difficiles de pouvoir s'assumer. Ouais. Au-delà même des opérations, etc., c'est, je ne trouve pas que ce soit la chose la plus importante de dire à sa famille, à son entourage, qui on est.
Non, parce que la seule chose liée aux opérations, c'est qu'on comprend qu'en passant par là aussi, pour ceux qui sont vraiment très réfractaires, On comprend que c'est un parcours si lourd, avec un accompagnement psychologique, avec vraiment des opérations d'ampleur, que c'est pas une crise, que c'est pas une passade, c'est profondément vital.
Et que surtout, le moindre obstacle que vous rajoutez en plus à ces personnes-là, surtout s'ils sont administratifs, sont vraiment à la limite de la débilité. Quoi. Concrètement, aujourd'hui, se dire qu'après avoir traversé toutes ces étapes-là, parfois des processus assez longs, parce qu'il y a aussi des personnes qui entament leur transition à 50, 60 ans, etc. Ça. Et on vient encore leur pourrir la vie au quotidien avec des démarches administratives complètement stupides et ineptes qu'on pourrait régler et qu'on règle dans d'autres pays de manière beaucoup plus simple depuis très très longtemps. Oui. Donc concrètement, on a un retard qui est inadmissible en France. On se targue beaucoup d'être une patrie justement d'égalité, etc. et des droits de l'homme, comme vient de le rappeler Jonas Ben Ahmed. C'est insupportable de dire qu'en fait, on passe notre temps à pourrir la vie des gens, parce que c'est de ça dont il s'agit. Enfin, je parle sous le contrôle de Swan.
Et Swan qui va réagir juste après la pause et réagir aussi à l'interview que vous avez faite de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui prend sa part, hein, vraiment, qui veut lutter contre les discriminations envers les personnes LGBT+, qui sera lancée à la rentrée prochaine. Première grande étape depuis 2015 sur le sujet. À tout de suite sur Europe 1. Merci.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Ce matin, des personnes transgenres, est-ce qu'on vit une révolution des identités ? On en parle avec vos témoignages au 39-21. En tout cas, peut-être Julie réveille de l'opinion après cette agression de Julia, qui nous sert d'ancrage aussi à cette réflexion. C'était dimanche, place de la République, une personne trans prise à partie par des manifestants à Paris. Romain Burel, directeur de la rédaction du magazine Têtu, est avec nous. Vous avez entendu le comédien Jonas Ben Ahmed s'exprimer à l'instant sur les obstacles administratifs aujourd'hui. Après sa transition, il se heurte à cela au quotidien. Il ne veut plus voyager, il ne peut plus voyager ni même prendre l'avion parce que ça leur envoie une identité passée qui n'est plus la sienne. Soan Pag, vous êtes chanteur et comédien. Vous avez 20 ans, vous avez considéré que vous étiez trans à l'âge de 13 ans, compris en tout cas. Par exemple, vous, dans votre quotidien, comment ça se passe ? Parce que vous avez fait changer aussi votre prénom à l'état civil ?
J'ai fait changer mon prénom, en tout cas c'est en cours. Je suis en train de refaire faire ma carte.
Oui.
J'ai pas fait le changement d'état civil, c'est-à-dire changer le petit F en petit M.
Oui, changement de sexe. Pourquoi vous l'avez pas fait ?
Je ne l'ai pas fait parce que, comme disait Jonas, c'est des démarches qui sont longues et compliquées. On doit passer devant le tribunal de grande instance pour justifier son genre, en fait.
Mais avec quoi ? Avec des dossiers, un
dossier
médical ?
Il faut monter un dossier avant. Après, je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas toutes les infos. Mais il faut monter un gros dossier avant. Ça prend plusieurs mois pour avoir une date d'audience. Et moi, c'est quelque chose que je trouve humiliant d'aller me pointer devant un juge pour dire « Oui, je suis bien un homme. » Sachant qu'en plus, on peut me le refuser. Enfin, vraiment, je n'ai pas envie de faire ça. Et pour autant, je sais que je vais devoir y être obligé parce que ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours d'avoir un état civil qui n'est pas conforme.
C'est ça. Pas pour vos rendez-vous professionnels, médicaux, tout quoi. Mais est-ce qu'on a le droit en France, en vrai, Romain Burel, trans, d'être dans une évolution de
alors,
genre ?
On a un droit formel, mais qui est très compliqué. Et moi, ce qui me sidère, dans un sens, on passe notre temps à nous rabâcher les oreilles que les tribunaux sont congestionnés, que c'est compliqué, qu'on prend que pour prendre une décision, ça prend un temps fou. Et on emmerde, il n'y a pas de mot, passez-moi l'expression, des citoyens qui veulent juste être eux-mêmes, quoi. C'est assez fou, en fait, concrètement. Vous imaginez l'énergie qu'il faut en se levant le matin en se disant que justement pour la moindre démarche administrative, et Dieu sait qu'on doit en faire, on a un pays qui adore comme les papiers, et on doit justifier de ce genre de choses en permanence, c'est absolument fou. Ces démarches, elles existent, elles sont excessivement contraignantes, mais j'ai envie de dire, au-delà du côté administratif, etc., il faut aussi simplifier la vie aux gens au bureau, quoi, concrètement. Si demain vous avez un collègue de travail qui vient et qui vous dit, à partir d'aujourd'hui, je vous annonce qu'en fait, j'entame ma transition, transition et voilà mon prénom. Simplifier lui la vie directement, changer sa carte de self directement, marquer le prénom, barrer-le avec un stabilo ou je ne sais quoi. Et voilà, faut cliquer, quoi, en fait, faut simplifier la vie. Dites-vous que le travail qui a été demandé en amont qui a été demandé à cette personne en amont, il est
énorme.
Infiniment oui. plus important que cette petite pécadille administrative, etc.
Oui.
C'est une conversation qu'on essaie d'avoir à Têtu, notamment avec le dialogue en entreprise, dans ce qu'on appelle les Têtu Connect, pour essayer de dire aux gens, comprenez que même au bureau, c'est important en fait de simplifier la vie des personnes LGBT.
Et Julia l'a redit après son agression, elle a beaucoup parlé de sa vie quotidienne, etc. Et elle a évoqué sa chance d'avoir été comprise par son employeur. Il a accepté ma transition, dit-elle, et ils m'ont accompagnée, m'ont soutenue, je n'ai pas perdu mon emploi, comme cela arrive à beaucoup de jeunes, de personnes dans ma situation. C'est une réalité aussi. Hein.
Et ça ne devrait pas être une chance, ça devrait être une normalité en fait. C'est ça, c'est super. Moi j'entends ça, je salue son employeur et je trouve que c'est absolument génial et ses collègues, etc. Il y a encore beaucoup trop d'entreprises dans lesquelles ça pose des problèmes, ça met des tensions apparemment dans certaines sociétés, etc. Mmh. Mais je vous avouerai que c'est difficile. Moi, quand j'ai entamé le recrutement de mes équipes, j'aurais adoré pouvoir recruter parmi les équipes de Têtu un ou une journaliste concernée par ces questions parce que ça me semblait important et ça a été très très difficile.
Pour
quoi.
Mieux diffuser justement ce quotidien. On a un auditeur qui nous demande de bien redéfinir ce qu'est une personne trans aujourd'hui. On dit trans, c'est transgenre, transsexuel, transidentitaire,
c'est
Sohan.
Surtout pas transsexuel.
D'accord.
C'est transgenre, c'est une personne qui s'identifie comme trans, c'est-à-dire qui a été assignée à un genre à la naissance qui est différent de celui auquel elle s'identifie.
D'accord. Et pourquoi surtout pas transsexuel ?
Transsexuel, c'est un terme qui est dépassé, qui a été utilisé de façon très médicalisée avant, quand la transidentité était considérée comme une maladie.
C'est ça.
Et donc aujourd'hui, c'est rejeté par la communauté trans, et d'autant plus que ça ramène la transidentité au sexe, alors que c'est uniquement une question de genre.
Absolument. Transgenre, voilà, transcender le genre aussi. On en parle encore avec Sohan, avec Jonas, avec Romain Burel et Catherine qui veut réagir au Standard d'Europe 1. On lui donne la parole juste après la pause. Le tour de la question sur le genre et les personnes transgenres. Une question abordée avec beaucoup plus de facilité qu'avant par la génération des jeunes, une nouvelle génération. Oui, tous ensemble contre la transphobie, notre société est-elle prête ? J'aimerais que nous donnions la parole à Catherine qui nous appelle au 39-21 pour échanger avec nos invités. Catherine Ducanet, bonjour à vous.
Oui, bonjour Wendy, bonjour à vous tous.
Merci d'être à l'écoute.
Bah, vous aussi, et toute mon amitié à Julia, parce que moi j'ai été complètement scandalisée quand j'ai vu cette vidéo.
Oui.
Mais en même temps, je suis pas étonnée, parce que je trouve que depuis toujours, l'être humain est d'une intolérance envers tout ce qui ne lui ressemble pas.
Mmh.
Il suffit d'avoir une petite différence, et c'est terminé, ça déclenche des haines, des choses épouvantables. Et je voulais dire que ça allait prendre, moi, beaucoup de temps avant que ça change, hélas. Puisqu'on entend tous les jours, que ce soit envers les homosexuels, les transgenres, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne savais pas du tout que les personnes vivaient ça, mais je ne vois pas pour quelle raison on en veut toujours aux autres d'être différents de nous. Et je pense qu'effectivement, il y a des cultures aussi qui sont moins ou pas du tout tolérantes envers tous ces changements, ces différences qui existent depuis très longtemps, depuis tous les temps. Et je pense que c'est dans l'ADN des êtres humains d'être toujours contre celui qui est différent d'eux.
Malheureusement.
Alors moi, Alors moi, c'est peut-être mon côté où j'aime énormément les animaux, donc je vois ce qui m'entoure, et donc je suis beaucoup plus, enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais plus respectueuse justement de la différence des autres, puisque je vois tout ce qui ne va pas aussi. Je suis très proche des animaux comme vous, Wendy d'ailleurs.
Merci.
Et je voulais savoir si c'était plus compliqué le changement garçon vers fille que fille vers garçon, puisque peut-être c'est moins visible malgré tout, puisque les filles, on sait qu'il suffit qu'on ait un décolleté un petit peu trop prononcé, un petit peu trop de rouge à lèvres, les cheveux lâchés, et ça déclenche des hordes de types qui deviennent fous.
Alors,
parce que même les animaux ne font pas ça.
Alors,
donc,
on va poser la question, si vous voulez, à Jonas et Catherine et Sohan. Jonas, je ne sais pas dans quel sens vous avez vécu la transition de genre fille à ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire garçon. Est-ce qu'en discutant avec les uns les autres, chez les transgenres que vous connaissez, il y a une meilleure facilité d'acceptation de l'identité dans un sens ou vers l'autre, ou dans l'autre ?
Alors c'est vrai que j'ai eu une discussion intéressante avec une femme transactiviste de Montpellier.
Oui.
Et justement, elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir perdu une position sociale. Et que c'est justement pour ça qu'on me stigmatise. Parce qu'au-delà de faire partie de la communauté LGBT, donc d'une minorité à proprement parler, je suis une femme, et donc perçue comme telle, donc je perds une position.
Mmh.
Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogé sur cette question-là.
Oui.
Et c'est vrai qu'avant d'être acteur, je travaillais dans une station totale.
Oui.
Et on était plusieurs employés dedans. Et c'est vrai que moi, j'avais des connaissances sur certains produits, mais pas sur les huiles moteurs. Et j'avais une collègue qui, elle, s'y connaissait bien. Et pourtant, on venait de me demander à moi, et quand je dirigeais les personnes, hommes ou femmes, quand je dirigeais les clients vers elle, parce que c'est elle qui s'y connaissait, y avait un peu un refus de « non, mais c'est à vous que je demande ».
Mmh.
Et ça, du coup, je l'ai... A posteriori, je pense que c'est par rapport à cette position sociale.
Et voilà, du genre déjà qui nous définit dans une échelle de valeurs. Vous l'avez ressenti aussi dans vos discussions, Sohan, avec des garçons assignés garçons à la naissance devenus femmes?
En termes de transition, j'ai essayé que la mienne, du coup, je ne sais pas. Après, je sais que c'est surtout en termes de discrimination que les femmes trans en subissent plus. Mmh. Il y a quand même une énorme partie des agressions sur des personnes trans qui sont en fait sur des femmes trans. Et donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'elles subissent plus de choses que nous. Après, je ne sais pas en termes de difficultés.
Bon, en tout cas, c'est un début de réponse pour Catherine. Merci de votre appel au 3921. Jonas Benhamed, on va vous libérer. Comédien, je le disais, est-ce que vous avez une actualité dont vous pouvez nous faire part? Est-ce qu'on peut vous suivre? On vous retrouve bientôt à la télévision, au cinéma? Je ne sais.
Normalement, je tourne tout bientôt pour un long métrage de Marie Castille.
Très bien, qui sera au cinéma donc dans quelques mois quand même. Il faut laisser le temps de tourner. Hein.
Oui, bon. Oui, c'est ça.
Et puis je recommande à nos auditeurs de suivre Plus belle la vie et la transition du personnage de Clara, devenu Antoine, que vous avez coaché, accompagné aussi pour cette série sur France 3, Jonas Benhamed. On va se quitter quelques instants et si vous voulez bien, on prolonger juste de 5-6 minutes cette réflexion ensemble parce que j'aimerais aussi donner la parole à Sohan qui est chanteur et comédien et qui va nous chanter quelques notes quand même d'une dernière composition. A tout de suite sur Europe 1 avant de parler des quinquados, les quinquagénaires adolescents avec notre invité Serge Guérin. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avant l'info, un petit point météo, Laurent Cabrol, il fait pas chaud du tout.
Effectivement Wendy, c'est le froid qui nous inquiète ce matin,
oui.
Puisque nous avons atteint des valeurs de moins 6 degrés à Châteaudun par exemple, en plein vent, ce qui est vraiment inquiétant pour la végétation qui, vous le savez, est en avance parfois de 7 à 10 jours.
Mm-hmm.
La journée de demain sera une journée où il fera encore plus froid, malheureusement, le matin, surtout après ça ira mieux. Mais dans l'ensemble, les éclaircies vont l'emporter. Samedi, une zone de pluie va traverser tout le pays. Ce ne sera pas une belle journée, ce sera probablement la journée la moins agréable du congé de fin de semaine. Dimanche, c'est un peu plus folichon, avec des giboulées partout, sauf sur la partie sud du pays. Finalement, nous conservons ce type de temps encore quelques jours.
Merci Laurent, voici l'info ma chère Julie.
Il est 9h58 sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Julie, bonjour à tous. À peine un mois après sa libération, la nouvelle arrestation de Carlos Ghosn, interpellation liée à de nouveaux soupçons de malversation financière. L'ancien patron de Renault-Nissan parle d'une arrestation révoltante et arbitraire. Et dans le même temps en France, le ministre de l'économie indique chez nos confrères de BFM Télé que de nouveaux éléments ont été transmis à la justice française. Bruno Le Maire qui promet par ailleurs de s'attaquer à la question des conditions de départ à la retraite des grands patrons. Après les révélations sur les quelques 37 millions d'euros que touchera le patron d'Airbus, Tom Enders, il annonce une limitation des retraites chapeau à 30% du salaire du dirigeant. C'est une nouvelle étape dans l'enquête sur l'affaire Benalla et son volet passeport diplomatique utilisé après le licenciement du chargé de mission. Trois des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron sont convoqués par la justice la semaine prochaine. Il s'agit du secrétaire général de l'Élysée, du directeur et du chef de cabinet du président. Convocation en tant que témoin. Il devrait atterrir dans une heure en Corse. Le dernier déplacement d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat sur place. La coalition nationaliste appelle à une demi-journée morte le temps des discussions. Il est encore temps de protéger la santé des enfants qui grandissent en ville. Le message de l'UNICEF ce jeudi, l'UNICEF qui demande au gouvernement de passer à l'action contre la pollution de l'air. 3 enfants sur 4 dans l'Hexagone respirent un air pollué. L'agence de l'ONU pour l'enfance appelle notamment à la mise en place de zones de circulation restreintes en ville. Ce sera le PSG face à Rennes en finale de la Coupe de France dans un peu plus de 3 semaines. Le PSG tombeur de Nantes hier soir 3-0. Autre résultat, hier soir, clôture de la 30e journée de la Ligue 1. Strasbourg, toujours sur un nuage après la victoire en Coupe de la Ligue. Victoire 4-0 contre Reims. Guingamp, de son côté, s'incline 2-0 contre Montpellier.
Merci Marion Calais, à tout à l'heure, 11h.
À tout à l'heure.
Europe 1, il est 10h.
Europe 1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard.
Et on revient quelques instants encore, on prolonge ce sujet avec le témoignage sur la lutte contre la transphobie de Sohan Pag, chanteur, comédien, a signé fille à la naissance. Il nous a expliqué comment il avait fait son outing à 18 ans, après avoir pris conscience de sa transidentité à l'âge de 13 ans. Romain Burel est encore avec nous quelques instants, directeur de la rédaction du magazine Têtu, et une remarque sur Twitter, hashtag Europe 1, d'Ernest et Barthes. Je condamne l'agression de Julia, personne trans à République dimanche. En revanche, je pense que les trans doivent comprendre que ce n'est pas facile pour les autres de les comprendre. J'imagine que vous avez souvent ce genre de réflexion, Romain et Sohan.
Alors, c'est les personnes trans, pas les trans.
D'accord.
Et je pense qu'on ne demande pas forcément d'être compris, mais juste d'être accepté. Mmh. Et que ne pas comprendre ne justifie pas une agression, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale. Voilà.
Voilà, non mais c'est important, Romain Burel.
Je vais dire très calmement. Oui. Mais,
allez-y, non mais après,
moi j'en ai un peu marre du discours sur la tolérance. Je ne veux pas être toléré. Les personnes LGBT, elles ne sont pas là pour être tolérées. Elles sont là pour que vous les respectiez. Que vous respectiez qui elles sont intégralement comme elles vous respectent. Donc maintenant, je veux bien faire de la pédagogie, je veux bien qu'on parle, c'est hyper important, etc. Et j'entends que ce sont peut-être des questions neuves pour beaucoup de gens, mais à un moment donné... Il s'agit juste de ne pas être frappé dans la rue, pas être insulté, pas être regardé de travers,
oui.
Et être juste considéré pour qui on est. Je pense que c'est le minimum social que vous devez à n'importe qui, en fait, concrètement.
Mais Romain Burel, vous savez qu'il y a un racisme ordinaire, et là, il y a aussi des préjugés ordinaires, mais durs, sur l'identité, sur le genre. Par exemple, vous pouvez relayer la parole des agents de la RATP qui ont contribué à sauver quand même d'un mauvais pas Julia, mais qui ont eu des paroles très indélicates, sans le vouloir peut-être.
Qui lui ont dit, il ne faut pas vous habiller comme ça, monsieur, il ne faut pas venir ici, monsieur, concrètement.
Comme
alors
si
qu'il s'agissait
une
clairement d'une femme. Julia a dû leur préciser qu'elle était une femme. C'est terrible, en fait. Effectivement, bon, ils font leur travail. Ils la sortent d'une issue qui aurait pu être très, très grave, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais là, il y a aussi un travail à faire et une prise de conscience qui doit être fait auprès des policiers. Il y a un travail de pédagogie auprès des jeunes policiers pendant la formation pour leur faire comprendre que quand on s'adresse à des personnes LGBT, notamment à des femmes ou à des hommes transgenres, on doit leur parler en respectant leur genre.
Alors là, ils se sont adressés à un travesti, en fait. Ils ont eu peut-être l'impression que c'était un travesti.
Je ne sais pas ce qu'ils avaient l'impression ou ce qu'ils croyaient faire, etc. Mais je pense qu'en tout cas, que là, je leur en veux pas moi personnellement d'une manière personnelle on va dire mais je pense qu'il y a un défaut qui est celui aussi de la formation des personnels policiers pour prendre les plaintes, pour les considérer.
Et pas que de la formation, de la connaissance de l'opinion quand même publique aussi, hein, Sohan.
J'aimerais préciser aussi qu'il y a 96% des personnes trans agressées qui n'osent pas porter plainte parce que peur de la transphobie, parce que peur de ne pas être pris au sérieux au commissariat et que ça reflète aussi très bien ce manque de confiance qu'on peut avoir à cause de paroles comme celle-ci.
Ah oui, est-ce que pour terminer, vous retrouvez dans le sondage que nous a donné tout à l'heure le sociologue Arnaud Alessandrin, sondage sur plus d'un millier de personnes à Bordeaux et 80% des personnes trans qui se vivent anxieux au quotidien, de fait de leur identité, pas acceptée, pas suffisamment comprise en tout cas. Vous vous retrouvez là-dedans ?
Je me retrouve et c'est même pas surprenant en fait, c'est... quand notre identité est constamment bafouée, pas respectée, c'est normal qu'on finisse par avoir peur de l'espace public, des gens qui nous entourent aussi.
En tout cas, c'est tout à votre honneur d'abord d'être venu ici et de prendre le temps, par exemple, de répondre sur les réseaux sociaux où la haine quand même est assez courante, l'intolérance vraiment, y compris sur les applications de rencontres. Vous faites un travail voilà, au quotidien, votre petite part de pédagogie, de sensibilisation. Je voudrais qu'on termine en musique avec vous qui êtes chanteur, Sohan Pag. On peut retrouver d'ailleurs vos différentes productions sur les réseaux et sur votre compte Twitter, Sohan Side. On termine avec une dernière composition.
Oui.
Comment s'appelle-t-elle ?
Demain.
Demain, eh bien c'est parfait. On vous écoute, Sohan.
Demain, j'aimerais retrouver ton sourire, celui des soirs où l'on reste éveillé. J'aimerais retrouver tes désirs et nos yeux embrumés. Je veux que l'on s'adore, je veux qu'on se répare, je veux qu'on se dévore, on se sépare.
Le lit est vide et je me perds même la nuit dans l'amertume. Plus aucun souffle ne me dirige. Je veux bien croire que l'amour tue. Tes mains qui dansent au loin m'inspirent, mais je n'expire que le néant. Les gens me disent, au moins respire, mais je n'aspire qu'à me perdre en criant, il est 20h. Mes dents claqueraient si elles pouvaient. Je t'enlacerais si je pouvais, mais j'ai peur. J'ai l'impression que mes lèvres s'effacent si je t'embrasse. Je suis fou, cette sensation de fièvre m'écrase. But you're gone, I can see your body, but you're gone. Can see your body, not your love. All I can feel is our pain in my bones. But you're gone, I can see your body, but you're gone. I can see your body, not your love. All I can feel is all pain in my bones.
Magnifique, Sohan Pagh, en direct sur Europe 1, guitare-voix. Merci pour ces mots touchants, délicats et pour votre présence aujourd'hui. Merci. C'était beau de terminer ainsi. Merci Romain Burel,
merci à vous.
Directeur de la rédaction du magazine Têtu. Et à tout de suite avec notre sujet sur les quinquados. Merci à vous.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.